Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans le cadre du voyage du pape en France, Canal Académie consacre plusieurs émissions au Vatican, ainsi qu'au souverain pontife, membre de l'Institut de France. La rédaction de Canal Académie a notamment réalisé deux émissions consacrées aux académies pontificales, reflet du rayonnement du Vatican dans le monde, le Vatican dont l'influence est beaucoup plus importante qu'on ne peut le croire. Christophe Diquez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Canal Académie, historien, spécialiste de l'histoire diplomatique. Vous venez nous présenter l'Académie pontificale des sciences.
Oui, Émilie. Alors, pour mieux présenter cette institution, je souhaite évoquer une figure, celle de Dom Mabillon. À la fin du mois de décembre 2007, donc l'année dernière, un événement est quasiment passé inaperçu. Il était coincé entre la fête de Noël et le réveillon. Il s'agit du tricentenaire de la mort de Dom Mabillon. Dom Mabillon qui aurait, à mon sens, pourtant mérité de très larges honneurs. Canal Académie a cependant consacré à cette figure religieuse et intellectuelle deux émissions. Alors Dom Mabillon, figure du grand siècle, est d'abord le père de la diplomatique du grec ancien diploma, passeport ou bien papier plié en deux. La diplomatique, c'est l'étude de la structure des documents officiels. La diplomatique s'intéresse à la classification des documents, à leur valeur, à leur âge, à leur authenticité. Bref, il s'agit d'une science auxiliaire de l'histoire. Dom Mabillon était aussi un moine bénédictin qui défendit le travail intellectuel dans la vie monastique contre le réformateur du monastère cistercien de la Trappe, le très austère abbé Rancé. Il y a deux abbés Rancé. Il y a le premier abbé Rancé qui est en cours et il y a l'abbé Rancé austère qui, lui, est dans un monastère. Alors, Dom Mabillon a été l'auteur de nombreux ouvrages. Il a entretenu une correspondance très riche avec les savants de toute l'Europe. Et quand Le Tellier, archevêque de Reims, annonça à Louis XIV la mort, je cite, de l'homme le plus savant et le plus pieux du royaume, le roi répondit « C'est donc le père Mabillon ». Il avait 43 ans. Croyant et homme de science, ainsi était Mabillon, qui conciliait justement la foi et la raison. C'était un homme mu par une charité et un amour de la vérité à nul autre pareil.
Foi et raison, donc nous voilà au cœur d'un des débats entourant l'Église et donc au cœur de cette Académie pontificale des sciences.
Exactement. Dans son fameux discours de Ratisbonne, Benoît XVI aurait pu citer, à mon avis, Dom Mabillon. On retient du discours de Ratisbonne la question de l'islam, la soi-disant provocation, alors qu'il fallait y retenir un regret, je pense, celui de l'influence décroissante de la culture grecque dans le christianisme au temps moderne, ceci sous l'impulsion successive de la réforme, tout d'abord, de la théologie libérale, mais aussi du mélange des cultures. Mais une autre institution représente précisément cette volonté de réconciliation de la foi et de la science. Elle est peu connue, tout comme ce cher Mabillon. Elle n'en reste pas moins un repère, à mon sens, de matière grise qui ferait pâlir beaucoup d'universités dans le monde. Il s'agit de l'Académie pontificale des sciences.
Et quelles en sont les origines ?
On ne dira jamais assez à ceux qui accusent l'Église catholique d'obscurantisme qu'elle fut la toute première académie scientifique de l'histoire du monde. Elle a été fondée à Rome en 1603 par le protecteur des sciences, le prince Federico Cesi, qui lui donna le nom d'Académie des Lynx. Elle reçut l'approbation du pape, le pape Clément VIII, et elle inspira la fondation de la Royal Society à Londres en 1662, mais aussi de l'Académie des sciences à Paris, qui a été fondée, je le rappelle, en 1666, si mes souvenirs sont bons. L'Académie pontificale se place sous la protection d'un saint, Saint Jean l'Évangéliste. Le signe, l'attribut de Saint Jean est l'aigle. Et bien précisément, l'Académie pontificale, le blason de l'Académie est flanqué d'un aigle et d'un lynx, symbole de la vision, de l'aigle, et de la raison, le lynx. Alors pourquoi cette académie ? Tout simplement parce que l'Église tient à répondre aux défis de la modernité. Je vous disais par exemple à propos de l'Académie pontificale ecclésiastique que Rome a ressenti le besoin de professionnalisation d'un corps diplomatique. Eh bien, ce besoin de répondre aux questions scientifiques du temps se fait également sentir à cette époque. Il y a donc une évolution de l'Église, tout comme pour l'Académie pontificale ecclésiastique. Rome a besoin d'experts, tout simplement. Malheureusement, cette académie est dissoute. Elle est dissoute à la mort de son fondateur, mais elle est recréée bien plus tard, en 1847, par le pape Pie IX, qui lui donna le nom d'Académie pontificale des Nouveaux Lynx. Nous sommes au XIXe siècle, et vous n'êtes pas sans savoir que le pape Pie IX est considéré aujourd'hui comme un sombre réactionnaire, si je puis dire, en un siècle de révolution, eh bien nous pouvons voir à travers la renaissance de cette académie qu'il était bien loin d'être un personnage opposé aux sciences. Il faut attendre le 28 octobre 1936 et le motu proprio in multis solaciis de Pie XI pour qu'apparaisse le nom d'Académie pontificale des sciences. Et c'est Pie XI qui en rédigea les statuts lui-même, des statuts qui furent mis à jour par Paul VI en 1976, puis par Jean-Paul II 10 ans plus tard. Alors, la première assemblée de l'Académie pontificale des sciences a été inaugurée par Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII, qui, pendant la guerre, en tant que pape cette fois, permit aux scientifiques italiens de confession juive d'exercer leur métier, alors qu'ils en étaient empêchés par les lois raciales de 1938 en Italie.
Quelles sont les particularités de cette académie ? Quelles sont les disciplines qu'elle recouvre ?
Eh bien, cette académie qui est installée dans la Cassina Pio Quattro, la petite maison de Pie IV qui se trouve dans les jardins du Vatican, eh bien, cette académie compte quelque 80 membres élus, originaires du monde entier. Dans l'élection, le critère scientifique prime, vous vous en doutez, tout comme celui de la moralité. Chaque élection est validée naturellement par le Saint-Père. Et un point important, non des moindres d'ailleurs, la confession catholique n'est pas exigée pour entrer à l'Académie pontificale des sciences. En 1936, le but de l'Académie fut de promouvoir les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, ainsi que l'étude de l'épistémologie. Eh bien, depuis quelques années, bien d'autres disciplines se sont ajoutées à cette liste, certaines généralistes comme l'étude de l'environnement, d'autres beaucoup plus pointues comme la biologie moléculaire, la génétique ou bien encore les sciences atmosphériques. Oui, le Vatican s'intéresse au climat. Mais les 80 membres, si vous voulez, ne sont pas séparés, chacun dans leur spécialité. Non, il existe une seule et même catégorie. Il s'agit là d'une de ces grandes particularités, là aussi unique au monde. C'est la seule académie effectivement dans le monde à ne pas opérer cette distinction des spécialités. De plus, il s'agit de la seule académie scientifique supranationale. Donc vous avez X nationalités représentées. Je pense qu'il doit bien y avoir une vingtaine ou une trentaine de nationalités représentées.
Mais quels en sont ses membres ? Quelles en sont ses activités au fond ?
Eh bien, il faut distinguer les membres illustres du passé et ceux du présent. La liste des deux est assez impressionnante puisque depuis 1908, plus de 40 prix Nobel ont fait partie de ses rangs. On recense notamment Marconi, le physicien italien qui a travaillé sur les ondes hertziennes, Paul Dirac, qui est un des pères de la mécanique quantique, Fleming, le découvreur de la pénicilline. Alors plus près de nous, vous connaissez bien évidemment Stephen Hawking ou bien le français Jérôme Lejeune qui a découvert, lui, la trisomie 21. Et aujourd'hui, Nicole Le Doirin, qui est ni plus ni moins que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Nicole Le Doirin, qui est chercheur français en biologie et en embryologie. Nous l'avons reçu au micro de Canal Académie. Alors comme toute Académie de par le monde, c'est un centre de recherche, eh bien, l'institution pontificale a ses programmes, des programmes de recherche, elle organise des colloques, elle publie des actes et je vous renvoie d'ailleurs au site internet du Vatican qui vous en donne la liste. L'Académie prime aussi les travaux méritants de jeunes scientifiques, il s'agit de la médaille Pie XI, surtout l'Académie offre un regard moral sur la science en étudiant sa nature et son champ d'action, un regard éthique, les moyens bien évidemment d'y accéder tout en se penchant sur l'histoire bien évidemment de la science. On est surpris par l'humilité de ses membres, c'est ce qui fait sa vertu. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'on en entend moins parler. Elle a un sens du service, c'est ce qui fait sa grandeur et elle se propose, je cite, fondamentalement de définir les liens entre foi et raison, entre sagesse et science, entre amour de la vérité et recherche de Dieu. Ainsi, en 1979, à l'occasion du centenaire de la naissance d'Albert Einstein, quand Jean-Paul II demande à l'Académie de se pencher sur le cas Galilée, bien connu, eh bien ce n'est pas tant pour faire repentance qu'il agit de la sorte, Jean-Paul II, mais bien pour dissiper un malentendu et surtout montrer la compatibilité de la science d'une part et de la foi d'autre part. Il ne s'agit pas de les séparer, mais de les réunir.
Est-ce que l'Église a besoin de la science finalement ?
Eh bien oui. Nous pourrions nous demander, à l'instar de l'ancien président de l'Académie pontificale des sciences, Monseigneur Lemaître, qui disait « L'Église aurait-elle besoin de la science ?» Eh bien, ce dernier, Monseigneur Lemaître, y répondait par l'affirmation suivante « Certes non, la croix et l'Évangile lui suffisent, mais aux chrétiens, rien d'humain n'est étranger. Comment l'Église aurait-elle pu se désintéresser de la plus noble des occupations strictement humaines, la recherche de la vérité. Telle est au fond, à mon sens, la belle image d'une Église dans le monde et non du monde. Parce qu'à la différence du croyant, fût-il scientifique, eh bien l'Église sait que l'énigme de notre présence sur Terre et les problèmes posés par la nature ont leur solution, c'est la solution divine.
Pouvons-nous citer pour finir des références d'ouvrages ?
Eh bien, comme je viens de le dire, je vous renvoie au site du Vatican. Surtout, tout un chacun peut commander les actes de l'Académie. Il suffit d'écrire à la librairie éditrice du Vatican. Beaucoup de documents sont en anglais, vous vous en doutez. Il existe aussi de nombreux textes pontificaux sur les liens entre la foi et la raison, au premier rang desquels je citerai l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, qui date du 14 septembre 1998. Les premiers mots de ce texte sont les suivants. Jean-Paul II écrit « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Il y a donc un autre texte, un texte plus récent, qui vient d'être publié, du cardinal Christophe Schönborn, « Hasard ou plan de Dieu, la création et l'évolution à la lumière de la foi et de la raison ». C'est un texte publié chez un éditeur français, les éditions du Cerf. Je vous renvoie aussi au texte de Benoît XVI, qu'il devait prononcer à l'université de la Sapientia, un texte majeur, là encore, qui était, à mon sens, la meilleure des réponses à l'obscurantisme d'une minorité d'étudiants et de professeurs qui refusèrent l'entrée du pape à l'université. Eh bien, ce texte est disponible là aussi sur le site du Vatican.
Merci Christophe pour cette présentation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Mire.
Merci et à très bientôt.